Allez, on marche encore une petite heure.
Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Tous les mercredis, en deuxième heure, le temps d'un bivouac partira dans les pas d'un grand voyageur d'hier. Pour commencer cette série, nous prenons la voie des airs. Nous allons revenir sur la vie d'un aviateur pionnier de l'aérospostale, dont les vols ont inspiré un des plus beaux livres qui soit, un livre qui a lui aussi dépassé les frontières pour devenir un succès mondial, Le Petit Prince. C'est à la vie et au voyage de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, que nous allons consacrer la deuxième heure du temps d'un bivouac en compagnie d'Alain Vircondelet, auteur de nombreux ouvrages sur l'aviateur, dont Saint-Exupéry, Histoire d'une vie, chez Flammarion, ou encore Les Trésors du Petit Prince, chez Grund. Également avec nous, Jocelyne Sauvard, romancière, biographe. Elle a participé à la rédaction de l'ouvrage intitulé Renaissance de Saint-Exupéry, paru chez Écriture. C'est donc en bonne compagnie que nous nous envolons à la rencontre d'Antoine de Saint-Exupéry.
Saint-Ex avait le regard étonné, le nez étonné, l'ovale étonné. Et pourtant, il se dégageait de son visage clair et sain une impression de grand sérieux, tantôt évangélique et tantôt scientifique. Dirais-je que nous devâmes amis tout de suite. Il avait une façon d'attaquer les questions et les frometons qui convenaient à mes méthodes. C'était direct, adroit, sous l'impalpable nappe de fantaisie et de négligence. Il était abondant, rieur et brusquement attentif, comme on l'est à ces moments où passe soudain devant la façade de l'esprit le côté d'une chose qui ne s'était jamais montrée. C'est la présentation, comme on dit en chirurgie. Alors, Tonio devenait l'écrivain qu'il fut, l'écrivain qui manque. Quelque chose comme un Vigny, bien plus affranchi, mais tout aussi pur et strict, et qui aurait été pourvu en excédent de toute la noblesse de caractère et de la continuité morale du sens de l'air. À ces moments, les uns qu'il avait tués sous lui le servaient, et il s'élevait dans l'azur, vers le quartz céleste, sur les planeurs d'une très belle langue française.
Le poète et écrivain Léon-Paul Fargue parlant de son ami Antoine de Saint-Exupéry. Nous étions en 1946. Alain Vircondelet, il en fait un portrait assez juste à vos yeux. Vous y ajouteriez quoi à ce portrait?
Léon-Paul Fargue était vraiment son ami. C'était avec lui qu'il allait chercher des jeunes filles à Montmartre et aller dans les cabarets, dans les dancings. Et il allait passer des soirées, des nuits entières en délaissant son épouse Consuelo. Et il était toujours avec Fargue. Le portrait est juste. Parce que Fargue dit dans ce portrait qu'il vient de faire, tout le caractère paradoxal du personnage. C'est-à-dire que Saint-Exupéry n'est pas le héros lisse que la panthéonisation du personnage a pu faire. Au contraire, c'est un homme qui est d'une énorme complexité et il est en même temps un homme foutraque, bavard et en même temps solitaire et silencieux. C'est un homme qui à la fois aime la vie et qui est inconsolable de la vie antérieure, de la vie matricielle auprès de sa mère. C'est un homme qui est tout et son contraire. Et c'est en même temps un homme, et ça je crois que c'est le point fondamental sur lequel Léon-Paul Fargue a insisté, c'est sa générosité d'âme, ce qu'il était vraiment.
Et puis il y a ce lien indéfectible au voyage. Aviateur, on le sait, il a aussi été grand reporter, journaliste, Antoine de Saint-Exupéry.
Ce goût du voyage, on peut dire qu'il est surtout le goût, je dirais métaphysique, de rejoindre quelque chose. Ouais. C'est l'envie de rejoindre quelque chose. C'est l'envie d'aller de connaître une idée d'un royaume qu'il aurait perdu et que dès sa naissance il aurait perdu et qu'il faudrait absolument retrouver. Il dit dès que je suis entré dans le monde, c'est-à-dire dès sa naissance donc, je me suis senti jeté dans ce monde et il a fallu que je marche quelquefois à contre-courant de ce monde pour retrouver la vie d'un royaume perdu. Et donc son toute sa quête, parce que on peut dire que la marche ou l'aventure d'Antoine de Saint-Exupéry dans toute son existence a été une quête vraiment du royaume, une quête du royaume perdu.
Jocelyne Sauvard, il y a aussi évidemment ce rapport à l'écriture. Antoine de Saint-Exupéry est l'auteur d'ouvrages importants. En quelques mots, comment vous décririez, évidemment, on va rentrer un peu plus dans les détails dans la suite de cette émission, mais en quelques mots, comment vous décririez l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry?
Alors, je vais d'abord garder le nez étonné de Léon-Paul Farc, parce que effectivement, Antoine de Saint-Exupéry a un nez étonné, puisqu'il porte vers les cieux avec son regard, et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rêve à l'impossible, quoi.
Il a le nez en trompette.
Oui, le nez en trompette.
Pique la lune. C'était son surnom, Pique la lune.
Mais surtout, par exemple, en classe, il oubliait ses cahiers, il regardait par la fenêtre, qui n'a pas fait ça et qui n'est pas devenu écrivain, voilà. Donc, plutôt que d'être un élève sérieux, il était dissipé et il regardait le ciel. Parce que, pour en revenir à votre question, l'œuvre, c'est à la fois le ciel, voler, et en même temps, le ciel, la spiritualité, écrire. Voilà, les deux choses se rejoignent, elles sont complètement conjointes et complètement mêlées. Et ce côté étonné du nez, il l'avait complètement en lui, parce qu'il avait gardé cette âme capable, cet esprit d'enfant, toujours capable de s'étonner. Et c'est ça qui nous séduit dans ses ouvrages. Oui. Et qui nous attire.
Oui. C'est qu'il parle un peu à l'enfant que nous avons été. Quel type d'enfant il était?
C'était un enfant qui était solaire, d'abord. Le roi soleil, on l'appelait. Hein. Sa mère l'appelait le roi soleil au château de Saint-Maurice de Rémins où il vivait avec toute sa fratrie. Et c'était un garçon qui, justement, était l'entraîneur de la fratrie. Hein. C'était lui qui inventait des jeux, c'est lui qui inventait des histoires et qui avait toujours une capacité d'émerveillement. Hein, ça c'est très important, hein, une capacité d'émerveillement et d'admiration sur les choses et le monde.
Je vous propose d'écouter le témoignage de la sœur d'Antoine de Saint-Exupéry, Simone de Saint-Exupéry, invitée de Interactualité en 1964.
Il avait une vitalité prodigieuse et surtout une imagination débordante, et il passait son temps à inventer des moteurs, des projets de machines, et il venait vous assourdir avec ses projets, vous demandez conseil, naturellement on n'y entendait absolument rien, et on le renvoyait désirant un peu de repos. Mais à part ça, nous avions des jeux très variés, et nous racontions des histoires indéfinies, et sa grande joie était de monter dans les greniers et de rechercher, soi-disant, le trésor qui devait y exister.
Ouais, tout y est, hein, le trésor dans les greniers, il aime lire, il lit Jules Verne, il dévore Jules Verne, oui. Le petit Antoine de Saint-Exupéry.
Il épuisait, sa sœur a raison, il épuisait son entourage. Ouais. Et il a toujours épuisé son entourage, même adulte. Ouais. Il réveillait ses amis, André Monroy ou d'autres, pour leur lire des textes qu'il venait à peine d'écrire, mais à 3h, 4h du matin, il réveillait tout le monde et il lisait. Et Gide avait souvent peur de ses coups de fil parce qu'il occupait toute la nuit à lire ses pages.
Et pour rester sur l'enfant, je crois, il a cette envie de décoller, il l'avait déjà tout petit, il avait fait une sorte de bicyclette à laquelle il avait mis une voile. On a déjà tout l'esprit du petit prince pour s'envoler.
Alors, il a inventé des objets, comme dit sa sœur, et des instruments, et des objets volants. Et puis aussi, il avait inventé un jeu qui était tout à fait extraordinaire, c'était le jeu du chevalier à clin. Et le jeu du chevalier à clin, c'est quand tous les enfants étaient dans le parc, du côté des sapins qui étaient très épais et très sombres, il voyait venir l'orage. Quand il voyait venir justement l'orage poindre à l'horizon, vous savez, il y a toujours un temps dans les orages où il y a des grosses gouttes qui tombent, mais très espacées. Hein, et puis après, c'est l'orage dru qui tombe. Alors, il guettait ces premières gouttes et il fallait aller depuis la Pinède, il fallait aller jusqu'au seuil du château en évitant, évidemment, d'être mouillé par les grosses gouttes. Et celui qui arrivait le moins mouillé était sacré chevalier à clin. Et c'est une chose qu'il a toujours conservée, puisque quand il est allé en reconnaissance dans la fameuse bataille d'Arras qu'il raconte dans Pilote de guerre, eh bien, il était pris dans le feu de la mitraille allemande, et pour se sauver de la peur d'abord, hein, il parlait de son enfance et il disait « Te souviens-tu, Paula, ce qui était la nurse tyrolienne qui s'occupait d'eux, te souviens-tu, Paula, lorsque je faisais le chevalier à clin ?» Et il jouait lui-même à éviter les balles comme on évitait les gouttes d'eau.
Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'il se raccrochait à son enfance dans les moments les plus difficiles.
Toujours.
Son enfance était le moment le plus heureux.
Ça a été une enfance idyllique, ça a été une enfance Il a évoqué son enfance comme celle de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
pourtant,
à Bethléem.
Pourtant, voyez, son père
à Nazareth plutôt.
Pourtant, oui. Pardon, son père meurt quand il a 4
oui,
ans.
Oui, à son père, ça a été une grande détresse de voir mourir son père. Il a dit, quand mon père est mort, il me devint montagne. Et donc, c'est très beau comme phrase. Ouais. C'est une phrase que j'ai trouvée dans les archives inédites de Saint-Exupéry. Quand mon père est mort, il me devint montagne. Et toute sa vie, il n'a cessé de vouloir ou bien dépasser les montagnes, les Andes, hein, par exemple, ou bien au risque de s'y jeter et de s'y perdre.
Oui. À quel âge fait-il son premier baptême de l'air? Très tôt, finalement.
Très tôt, il le fait à 10 ans, oui. Et il le fait de façon tout à fait aléatoire, puisque tout près du château de Saint-Maurice, il y avait un aérodrome, et il est allé à vélo dans l'aérodrome, qui se trouvait à quelques kilomètres, et là, il a demandé à un pilote de monter dans un avion, et le pilote a dit, mais c'est impossible, il faut que vos parents acceptent. Il dit, mes parents ont accepté, aucun problème. C'était une époque où il y avait moins de d'usage et de précautions qu'aujourd'hui. Ouais. Et le pilote l'a fait monter, il a fait son premier baptême de l'air là. Mais en réalité, Saint-Exupéry n'est pas au départ, ce n'était pas forcément l'air, puisqu'il a présenté Naval, quand même. Hein, et il aurait pu devenir le Vercors, hein, il aurait pu devenir le poète de la mer aussi, tout aussi bien. Il a raté Naval, et il a eu cette chance de rencontrer l'aéropostale au moment de sa création, et là, il est parti, donc, dans cette poétique du vol et de l'air.
Oui, on va en parler, hein, de cette aventure de l'aéropostale. Ces aventures vont lui inspirer les plus beaux livres, comme on va le voir dans la suite de cette émission. On part dans les pas d'Antoine de Saint-Exupéry jusqu'à 18h, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je vais vous épater un petit coup, je vais vous montrer comme j'ai une belle voix. Je vais vous offrir une récréation en vous chantant une petite chanson. Et ça, c'est pour vous faire plaisir. Celui-là qui était mon père n'a jamais connu mon nom. Oh, je m'embrouille, je fais trop. Non, je vais en prendre une autre. Celle-là est trop longue.
La sauce, il est la sauce, il est sale. Lance la sauce. La sauce, il se le aussi. Elle a ce O, elle le souligne. Seul S, O, S, I, C, O, si elle a ce O, I, se lance la sauce. Il est salo, la sauce, le souligne. Laisse lance le O, si elle a.
C'était l'assaut Camille dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
La radiodiffusion de la nation française présente Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry.
Les collines sous l'avion creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or. De même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse.
Saint-Julien est en vue. Nous atterrirons dans 10 minutes.
Le radio-navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne.
Il y a tant d'orage que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à Saint-Julien ?
Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium et toutes les escales devant eux leur signalaient « Ciel pur, vent nul ». Il répondit
« Continuerons ».
Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre, prête à pourrir.
Vol de nuit adapté par l'ORTF le 16 décembre 1944. Alors, ce n'est pas le premier livre d'Antoine de Saint-Exupéry, hein, Vol de nuit, mais c'est son premier grand succès, Alain Vircondelet.
Ah oui, Vol de nuit d'abord a eu le prix Femina, et ouais. Puis Gide l'a adoré. Il a beaucoup aimé Courrier Sud déjà, mais il le dit dans sa préface. Vol de nuit est un véritable chef-d'œuvre. D'abord parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est une langue nouvelle, et c'est aussi une littérature qui n'est plus seulement romanesque, mais c'est une écriture du terrain, comme le sera Hemingway, par exemple, ou Dos Passos, les écrivains de la génération perdue américaine. Et il y a quelque chose chez Saint-Exupéry qui s'amorce, une langue, un récit, une forme du récit nouvelle qui n'est pas simplement celui qui raconte une histoire romanesque ou qu'il invente ou qu'il imagine, mais qui au contraire est du vécu.
Jacqueline Sauva, Jocelyne pardon Sauva, qu'est-ce que raconte Vol de nuit en quelques mots?
Vol de nuit, c'est Fabien. Donc Fabien est un amant, c'est l'amant de sa jeune femme. Ils sont très épris tous les deux. Il doit s'arracher à elle parce que il faut faire ce vol de nuit absolument en Argentine. Dans la nuit très claire au début, et puis elle est inquiète, elle reste en bas, mais enfin elle est habituée, il a mis ses grosses bottes, il a revêtu sa tenue, il est parti, c'est sa vie, il adore ça aussi. Et donc voilà, il est en haut et en compagnie de son radio volant, et le radio volant donc lui donne les renseignements et il les donne en bas, c'est sans arrêt entre en haut et en bas, entre le noir et la lumière. La lumière, elle est tout en haut, c'est-à-dire la lumière, c'est les étoiles, et bientôt la nuit n'est plus claire, elle est très sombre. Mais voilà qu'au-dessus de sa tête scintillent des millions, des milliards d'étoiles. C'est complètement blanc. Et donc, il est attiré par cette blancheur et il sait qu'il ne faut pas y céder. Il est attiré. Alors, il se replonge dans sa carlingue, il se replonge dans ses machines. Et à ce moment-là, quand il caresse ses machines, quand il les touche, l'avion n'est plus un avion, c'est une femme. Il caresse ses machines comme un corps de femme. Il est comme si... posait sa tête sur sa jupe, s'il se lovait sur elle. Voilà, et ça, c'est l'avion. Et donc, il va écouter les voix, il va écouter la blancheur, et tout d'un coup, il va se dire « Ah oui, mais je vais croquer une étoile, et là, je vais plus me retrouver. » Il sent que la mort va venir, et en même temps, il est attiré. Et alors là, est-ce que ce n'est pas Saint-Exupéry, ça ? Prendre toujours des risques, toujours plus de risques, et savoir qu'il y a la mort au bout.
C'est un peu l'ivresse de l'air hein, qu'il raconte.
Oui,
comme il existe l'ivresse des profondeurs,
Il a toujours été justement un homme très exalté finalement, ouais. Hein. Et au niveau de sa disparition en 44, on s'est même demandé s'il n'a pas été emporté par cette ivresse qui l'a amené à prendre énormément de risques et puis aussi à voler assez bas de telle sorte que il n'avait plus tellement de respiration et d'oxygénation. Ouais. Mais il y avait une sorte comme ça de drogue de plus en plus grande qu'il appelait pour essayer de percer justement ce royaume dont on parlait tout à l'heure. Mais à propos de Vol de nuit, j'ai une petite anecdote assez belle d'ailleurs qui où Marguerite Duras entre en scène. Moi, j'ai été très très proche de Marguerite Duras pour avoir d'abord fait beaucoup de travaux sur elle et avec elle. Et un jour, j'étais juste avant qu'elle ne meure, c'est-à-dire en 1995 ou 14, je lui rends visite et je travaillais déjà sur Saint-Exupéry et j'avais porté à la main, comme ça, j'avais Vol de nuit justement. Et je l'ai posé sur la table rue Saint-Benoît chez elle. Et elle regarde Vol de nuit et elle dit cette chose extraordinaire parce que Duras est quelque part une prophétesse hein, et une visionnaire et elle me dit Vol de nuit. Bien ça. C'est un titre, parce qu'elle est son exacte contemporaine. Hein. Mmh. Et elle dit, Vol de nuit, ce n'est pas Vol de nuit qu'il aurait dû l'appeler. Il aurait dû l'appeler Vol dans sa nuit. Et tout d'un coup, elle m'a ouvert des horizons extraordinaires. Et j'ai compris plein de choses par cette seule phrase que Duras m'avait dite. C'est-à-dire que le Vol de nuit, qui est un vol qui est au plan technique qui est très, très reconnu dans l'aéropostale, est en même temps un vol dans sa propre nuit et qui, justement, va amener le héros à accepter la mort. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toujours inconsolable chez Antoine de Saint-Exupéry, qu'il n'arrive pas, justement, à combler et qu'il va accepter pour cela, même de mourir.
Il ne se sent bien que quand il est en l'air, quand il est dans son avion.
C'est l'endroit où il se sent le mieux. Il fait quelques descentes sur terre, hein, bien sûr, et c'est un bon vivant. Hein. Ouais. Il aime la bonne nourriture, il aime bien boire, il aime, quelquefois même, il se risque à l'opium. Hein. Et en même temps, il aime aussi l'amour, les femmes, il est très infidèle. Hein. Il les appelle toutes des poulettes. Il va dans les cabarets, il rencontre plein de filles, des prostituées, des entraîneuses, il les fréquente beaucoup. Mais la chose la plus intéressante pour lui, c'est évidemment toujours de voler, d'aller toujours au plus haut. Et dans Courrier Sud, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut repérer. Il dit à un moment donné, c'est Bernice, le héros de Courrier Sud, qui est son premier texte. Et il dit cette chose, c'est Bernice qui parle, qui pilote. Et il dit, et puis, tu me connais, cette hâte de repartir, de chercher plus loin. Ce que je pressentais et ne comprenais pas, car j'étais ce sourcier dont le coudrier tremble et qu'il promène sur le monde jusqu'au trésor. Tout à l'heure, vous avez parlé du trésor. Voilà. Il est question de cela. Hein. C'est la quête du trésor. C'est initiatique comme histoire.
Le vol inspire indéniablement son écriture, Jocelyne Sauvage.
Complètement. Parce que ce qu'il aime, c'est partir. Partir, s'arracher, tout le temps partir, tout le temps aller plus haut. Voilà. Il n'est jamais satisfait. Du reste, on l'a vu à la fin de sa vie, puisqu'il a réclamé ses derniers vols, et il savait très bien qu'il partait avec des zingues qui étaient mal ficelées, qui étaient très très dangereux, aussi bien dans pilote de guerre que à la fin de sa vie, dans la réalité. Ces avions étaient pas fiables du tout. Il savait qu'il risquait leur vie à chaque instant avec ses compagnons. Mais voilà, il voulait partir, s'arracher, et surtout, il voulait aussi, aller vers l'inaccessible. Mmh. Et l'écriture, c'est bien aller vers l'inaccessible. Que voulait-il atteindre par son écriture? Je crois qu'il voulait atteindre la couleur des étoiles aussi, cette lumière qui le hante partout. Et puis, à propos de Marguerite Duras, moi, j'avais remarqué que dans Écrire, elle a quelque chose de vol de nuit, puisque quand elle parle de la nuit, elle dit l'écriture, c'est la nuit, etc. Et quand elle parle du corps, elle m'a beaucoup fait penser à Saint-Exupéry et je me suis dit qu'elle a dû le lire à une certaine époque aussi parce que lui-même, quand il dans Pilote de guerre, il explique que la machine, le manche à balai, tout ce qui fait l'avion, c'est le corps, c'est une espèce de machine et en même temps un corps qui vit et on vit avec ce corps.
Oui,
et elle dit la même chose avec l'écriture, et lui aussi.
Lui aussi le dit, notamment dans cet extrait qu'on va l'entendre lire lui-même, hein, quelques lignes de Terre des Hommes qu'il a publié en 1939, donc Terre des Hommes lu par Saint-Exupéry lui-même.
La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace On s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède, là on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture, jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
Alain Vercondelet.
Oui, c'est un texte magnifique, hein. Et en même temps, vous remarquez la diction de Saint-Exupéry qui n'est pas la diction d'un Jouvet un peu lyrique et, ouais, et emphatique, hein. Il a une parole qui est très simple et très humaine, on dirait aussi comme Camus qui parle, hein. Ouais. Il y a cette simplicité dans la langue qui n'est pas du tout, à l'époque, celle de la diction que l'on pratiquait. Mmh. Oui, mais il a dit le mot le plus important, il a dit rejoindre. En fait, voler, c'est rejoindre. Comme écrire, c'est rejoindre. Tout a été dans sa vie une volonté de relier ou de se relier. C'est le thème de la déliaison qui est le grand thème majeur de l'œuvre de Saint-Exupéry. L'aéropostale, c'est ça. Ouais. Hein, on va d'abord donner le courrier de l'autre côté des continents, mais de l'autre hémisphère. Mais c'est donc rejoindre les hommes. Et c'est cette image-là, parce qu'il s'est senti lui-même délié de son frère mort, délié de son père mort. Et délié aussi de cette France qui a été divisée en deux pendant la guerre. Donc il y avait toujours chez lui le souci de relier les hommes entre eux. Mmh. C'est donc une vision très très humaniste. Et en même temps, ce que disait Jocelyne Sauvage tout à l'heure était très juste. Saint-Exupéry, c'est à la fois un poète qui cherche l'inaccessible étoile, comme disait Stéphane Mallarmé, et en même temps, c'est un des derniers romantiques. Hein. Il y a quelque chose de très baudelairien chez lui. Baudelaire disait toujours je veux rejoindre aussi l'autre côté du monde, l'autre, ouais, partie du monde. Enfer ou ciel, pourvu que ce soit du nouveau. Hein. Ouais. Et il y a chez lui ce souci du nouveau aussi.
Mais alors ce besoin de poésie qu'on entend, ah, c'est un très poète, fort, hein. Oui, oui. Ah, oui, c'est un poète. Est-ce que ça le conduit aussi parfois à prendre des risques? Ne serait-ce que cette aventure de l'aéropostale, on le sait, hein, c'était dans des conditions assez difficiles. Hein, ces petits avions qui emmenaient le courrier par des voies aériennes qu'il fallait un peu ouvrir. Est-ce que c'était un aviateur prudent? Est-ce que c'était un aviateur héroïque?
La légende dit qu'il était imprudent et même qu'il n'était pas un très très bon pilote. Mais ouais, les avis sont assez partagés. Il y a des gens qui nous disent de l'aviation, qui nous disent qu'il était un bon pilote. D'autres nous disent qu'il était quand même médiocre. En tout cas, il a quand même cassé beaucoup d'avions. Ouais. Et quand il a fait des grands raids, comme le raid Paris-Saïgon ou celui de l'Amérique latine, quand il s'est abîmé à Guatemala City, il a quand même toujours cassé des avions, des cibles. Et parce qu'il prenait beaucoup de risques et parce qu'il pilotait en poète. Il ne regardait jamais derrière lui et il est probable qu'il se soit fait abattre justement parce qu'il ne voyait pas le chasseur allemand derrière lui, parce qu'il regardait toujours en avant. C'était un jeu, c'était comme un jeu vidéo finalement.
Oui. Hein. Ça me rappelle l'anecdote. Donc quand il va à un moment en Amérique latine pour l'aéropostale,
Aéropostale Argentina. Voilà. Il devient le directeur de l'aéropostale Argentina.
C'est là, oui, qu'il va rencontrer, oui, Consuelo.
C'est là qu'il va rencontrer.
Qui oui, deviendra sa, oui, femme. Oui. Et alors, apparemment, il va lui arracher un baiser, ah oui, à bord d'un avion, oui, en faisant, oui, des acrobaties terribles.
C'est une histoire extraordinaire. Racontez. Écoutez, c'est moi qui ai trouvé avec les héritiers de Consuelo le manuscrit dans les malles qui étaient enfermés depuis des dizaines d'années. Et on a retrouvé ce manuscrit et quand l'héritier de Consuelo m'a dit, mais écoutez, ça peut vous servir pour votre prochain livre sur Saint-Exupéry, je me suis dit, mais attendez, ce que je viens de lire, c'est extraordinaire. Il faut absolument le publier. C'est comme ça que nous avons publié, j'ai fait la préface et un essai sur ce sujet, ça s'appelle Les Mémoires de la Rose et ça a été le best-seller de l'an 2000. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, Consuelo raconte l'histoire. Elle est veuve d'un homme très riche qui s'appelle Carillo, qui était un écrivain guatémaltèque, et elle va chercher son héritage en Argentine. Et là, à bord de... elle arrive à Buenos Aires et lui, déjà à Buenos Aires, comme directeur de l'aéropostale argentina. Il s'ennuie beaucoup, il passe son temps à fréquenter les filles dans les cabarets, etc. Il s'ennuie à Buenos Aires, qu'il trouve une ville très très laide. Et il assiste à une conférence à l'Alliance française et que donne Benjamin Crémieux, qui est un écrivain de chez Gallimard, qui donnait une conférence à l'Alliance. Et Consuelo y est invité, tout simplement parce que Benjamin Crémieux était dans le bateau qui amenait Consuelo à Buenos Aires, et lui aussi. Et donc, il va assister à la conférence, et à la fin de la conférence, Consuelo s'en va, elle va chercher son manteau, et elle voit arriver un homme qui est très grand. Elle dit, mais c'est un ours brun qui arrive vers moi. Et cet ours brun, c'était Saint-Exupéry. Et lui, qui est généralement amoureux des femmes grandes, blondes, il tombe sur une femme qui est petite et brune. Et il dit, mais cette fille est formidable, elle est très belle, très jolie, et on dirait un petit oiseau des îles parce qu'elle roucoule. Alors il lui dit, venez, je vais vous faire piloter, je vais vous amener à faire un petit tour en avion. Et c'était le baptême de l'air de Consuelo. Et là, dans l'avion, il tombe totalement amoureux d'elle, et avec son côté qui est toujours aussi foutraque et rapide, et il veut l'épouser. Il lui dit, épousez-moi. Elle dit, mais écoutez, je peux pas vous épouser, ça fait une demi-heure que je vous connais. Et il lui dit, si vous ne m'épousez pas, nous allons nous cracher. Et il commence à faire des descentes et des loopings et des trucs incroyables. Et elle est tellement angoissée, elle lui dit, je vous épouse. Et arrivé au sol, effectivement, il lui demande de sortir avec lui, d'abord dans un restaurant, et puis après il l'amène dans son studio. Il dort dans une pièce à côté, elle dort dans son lit. Le beau matin, il l'avait rejointe.
Nous partons bivouaquer sur la planète du Petit Prince dans un instant, et on entendra la voix de Consuelo de Saint-Exupéry. Nous allons donc aller sur cette planète entre roses, volcans, moutons et les fameux couchers de soleil dans un instant sur France Inter.
Prenez un jeu de cartes. Mêlez-le. Tirez une carte sans la regarder. Mettez-la sur vos genoux. Comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Regardez-la. C'est le 7 de carreau. Maintenant, si j'ai raté, là, il ne faut pas m'en vouloir parce que je suis un peu loin.
Echo Beach, c'était Martha and the Muffins sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là ?
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Ainsi commence Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Gérard Philippe dans cet extrait. Cet aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion. La même année, Alain Vierconde-Lay, Antoine de Saint-Exupéry s'était lui aussi écrasé dans un désert.
Il s'est écrasé dans un désert et il a eu une expérience là aussi tout à fait immense et spirituelle, parce que pendant 3 jours, il ne va pas pouvoir ni boire ni manger, et à l'horizon que le sable, et il marche sachant très bien qu'il ne trouvera rien du tout. Le moment des mirages arrive, il est dans un état quasi comateux, et tout d'un coup il voit arriver une caravane, et cette caravane va le sauver. Il croit d'ailleurs que c'est un mirage, cette caravane qui arrive à l'horizon, et il est enfin sauvé in extremis et miraculeusement. Et de cette aventure, Saint-Exupéry a écrit après Le Petit Prince. Mais Le Petit Prince, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un livre qui a été conçu par une commande. C'est une commande de ses éditeurs américains qui trouvaient que depuis Pilote de guerre qu'il avait écrit, bien, il n'avait pas fait beaucoup de depuis Terre des Hommes, il n'avait pas fait beaucoup de livres. Le succès n'était pas encore le prochain n'était pas encore au rendez-vous. Donc il lui dit, écrivez-moi un conte pour enfants. C'est pour l'occuper pendant un certain temps, parce qu'il était très dépressif. Et en fait, il écrit ce conte tout à fait comme cela, incidemment, et au fur et à mesure, toutes les expériences de sa vie vont se rassembler dans Le Petit Prince. C'est ça, Le Petit Prince. C'est l'histoire où tout se rassemble.
Jocelyne Sauvard, c'est un livre singulier, différent des précédents ouvrages.
Complètement différent, unique, donc complètement universel. Et voilà, alors l'histoire du Petit Prince, c'est à la fois l'histoire d'un homme, d'un adulte, de quelqu'un de profondément triste et de profondément solaire. Et donc c'est un peu l'histoire de Saint-Exupéry certainement, mais c'est aussi l'histoire de chacun, parce que je veux dire, dans l'enfance, même avec une enfance enchantée, on a souvent des très grand moment de tristesse, parce que tout vous blesse quand vous êtes enfant, la tristesse du monde, le malheur de ceci, ce petit chien qui n'est pas heureux, etc. Et donc voilà, le petit prince réagit comme ça. Lui s'inquiète un petit peu pour sa rose, mais il s'inquiète aussi pour le monde, et puis même pour rien du tout. C'est là le changement de lumière qui va le rendre très triste à une certaine heure du jour. Et il avance, il annonce déjà l'histoire un petit peu de cette très très profonde tristesse, on a dit dépression, mais on va dire un mot plus joli, on va dire tristesse, atonie, qui anime complètement Saint-Exupéry parfois, et qu'on ressent dans d'autres livres. Mmh. Et ce Petit Prince, en même temps, il est assez merveilleux, parce que de planète en planète, en fait, il fait le tour de notre monde, et de planète en planète, il nous montre les écueils de notre monde et de notre société, mais aussi autre chose qui lui appartient à lui, cette lumière qu'il a en lui.
Alors, il y a cette rose, évidemment, qui lui cause bien des soucis, mais à qui il tient par-dessus tout. Je vous propose d'écouter l'interprétation de sa compagne Consuelo de Saint-Exupéry.
Le Petit Prince était un livre qu'il tenait à écrire sur sa fleur. Sa fleur, c'était moi. C'était lui, le Petit Prince. Et il avait une fleur à soigner, une fleur, je suis espagnol, une fleur qui craignait les courants d'air, comme disait cette rose, toussait beaucoup, et me tourmentait. Alors je me suis enfui avec des oiseaux émigrataires. C'était quand il partait pour ce grand voyage, et que je restais assez angoissée, et que je le menaçais d'aller me réfugier près de mes volcans, près de mes arbres qui grandissent toujours. D'ailleurs, le baobab est un arbre del Salvador.
Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part.
Elle a raison, Consuelo de Saint-Exupéry, la rose, c'est elle, Alain Vercandelay.
Pendant très longtemps, on a fait croire que la rose du Petit Prince était la mère d'Antoine de Saint-Exupéry, et jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait découvert finalement les mémoires de la rose qu'elle avait écrit. Et là, on s'est bien rendu compte que la rose du Petit Prince était bien Consuelo. D'ailleurs, la rose, elle est dans le conte, elle tousse comme Consuelo, qui a beaucoup de problèmes d'asthme, et qui va d'ailleurs en mourir. Elle meurt de cette maladie-là. Elle étouffe, elle fait de l'emphysème. Elle est coquette, comme Consuelo l'était. Elle est dépensière, comme Consuelo l'était.
Et puis, il y a ce rapport un peu conflictuel. Leur relation était très tumultueuse.
Bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait, comme elle le dit, que le baobab est comme les volcans qui peuplent la planète de l'astéroïde du Petit Prince. Ce sont des éléments qui constituent la terre du Salvador. Donc, le Petit Prince a été véritablement une sorte de puits dans lequel Saint-Exupéry a rassemblé tous les grands motifs et tous les grands thèmes de son expérience et de sa vie. C'est ainsi qu'il faut le lire, à mon avis. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tout s'éclaire.
Ouais. Et puis, il y a ces voyages dont vous parliez, Jocelyne Sauvard. Avant d'arriver sur Terre, le Petit Prince, quand il prend ce vol d'oie sauvage, d'oie migratrice qui passe, et puis il part de petite planète en petite planète, à chaque fois avec des rencontres assez singulières. Et là, c'est une critique assez moderne, finalement, de notre société.
Tout à fait moderne. L'homme qui salue sans arrêt, qui lève son chapeau, qui le remet et qui est très heureux quand on l'applaudit, ou ce géomètre de hasard, ou d'autres hommes comme ça qu'on voit, ce roi triste, etc. Oui, c'est tout à fait notre monde, et en même temps c'est quelque chose d'autre. Et puis même cette rose, certainement c'était Consuelo, mais aussi c'est autre chose quand même. Elle a une je ne dis pas que Consuelo n'était pas triste par moment, mais cette rose, elle a quelque chose d'extrêmement mélancolique qui rime davantage avec le Petit Prince qu'avec le personnage de Consuelo tel qu'on l'a vu, qu'elle s'est décrite elle-même. Ce petit oiseau de toutes les couleurs qui s'est marié en robe noire avec des roses rouges partout, c'est magnifique, vraiment comme un flamenco. Et donc la rose, elle a autre chose. C'est certain, elle boude, elle se fâche, mais en même temps, elle a une espèce de dose de, je ne sais pas, de rien du tout, de choses. Elle attend, elle a du silence en elle.
Ça veut dire que pour vous, il y a un peu de Saint-Exupéry dans la rose?
Oui,
c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Aussi, voilà.
Alain Vercandelay.
Oui, je veux bien le croire, il y a quelque chose de cela. Mais c'était une mélancolique aussi, Consuelo.
Oui,
d'abord parce qu'elle a été extrêmement trompée par Antoine de Saint-Exupéry. Et même si quelquefois elle a succombé à des relations extra-conjugales parce qu'elle voulait se vendre, mais c'était par défi. Mais en réalité, elle était très amoureuse de lui. Et lui avait besoin justement toujours plus d'autres femmes. Grand désir d'être aimé.
Allez, on poursuit le temps d'un bivouac sur France Inter. Artibella, come on home. Artibella, Artibella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, I saw you with a fella, and I don't like the idea. Artibella, you told me that you love me. There's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. Artibella, come on home. Artibella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. C'était Ina Deyard et Ken Booth, Artibella sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Fox Alpha Delta. La courbette, elle a été retrouvée en 98 par un pêcheur, par hasard.
Alors en fait, le pêcheur travaillait déjà avec Cassano depuis quelques temps et sur d'autres recherches. Hein, et Cassano lui avait dit, quand tu trouves des concrétions, tu les jettes surtout pas à la mer. Et là, en fait, le second, Benamor, il a même pas eu à trop se poser de questions puisqu'il y avait un truc qui dépassait, qui brillait. Donc il amène tout de suite au patron, Jean-Claude Bianco. Donc il casse le machin et il voit Antoine qui apparaît, quoi. Hein, donc.
Mais déjà là, c'est miraculeux de retrouver cette gourmette. Hein.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment une histoire de la Marseillaise au carré, ça. Hein.
Ah oui.
C'est mieux que la sardine qui bouche le port. Hein.
Non mais c'est...
Parce que franchement, un pêcheur marseillais qui trouve la gourmette de Saint-Aix au large de Marseille, c'est en partie pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y ont pas cru. Hein.
Extrait de Antoine de Saint-Exupéry et Le rire des étoiles de Irène Omelianenko sur France Culture. Alain Vircondelet, c'est en 1998 hein, qu'un pêcheur, et il a raison, hein, ce monsieur dans cet avion qui dit « ça paraît incroyable, on est vraiment dans le romanesque », repêche dans ses filets la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry.
Oui, c'est une histoire qui est féerique, hein, magique. Et toute la vie de Saint-Exupéry est conçue, elle est scandée par des événements qui sont presque miraculeux, qui sont des connexions d'étoiles, justement, des connexions mystérieuses et qui enchantent les lecteurs, évidemment, et les admirateurs d'Antoine. Oui. Effectivement, cette gourmette, comment est-ce possible qu'on puisse retrouver au milieu des filets une gourmette dans des concrétions, coulée dans des concrétions, et où apparaît le matricule d'Antoine et son nom. Et c'est effectivement, elle a été authentifiée, et on le sait, c'est réel. Oui.
Qu'est-ce qu'on sait exactement? Il y a encore un peu de mystère autour de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Vous nous avez dit, ne serait-ce que dans cette émission, j'ai noté à un moment, vous avez dit peut-être qu'il volait trop bas ou trop haut, qu'il y a eu un problème d'oxygène. Puis après, vous avez parlé de l'Allemand qui a abattu son avion. Donc finalement, on ne sait pas.
On ne sait pas, quoique un Allemand ait dit il y a quelques années que c'était lui qui l'avait abattu, mais simplement dans les rapports d'état-major, on aurait pu avoir les comptes rendus des pilotes allemands pour savoir si ils avaient abattu, et s'ils avaient abattu un avion français, ils l'auraient signalé, évidemment. Or, il n'est pas signalé. Donc on ne sait pas si c'est un bluff de la part d'un pilote qui est devenu très âgé et qui peut-être fantasme sur une histoire qu'il a cru vouloir vivre finalement. Mm-hmm. On ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que, parce qu'on a fait croire à un moment donné que Saint-Exupéry avait pu s'exiler, qu'il avait pu partir, qu'il aurait pu partir dans un monastère en Libye où qu'il avait trahi et qu'il était parti et qu'on le retrouverait quelques années plus tard. Il n'en est rien, bien sûr. Saint-Exupéry a bel et bien disparu en mer et il a été abattu parce que justement il avait regardé, il n'avait pas peut-être été assez prudent et qu'il n'avait pas regardé derrière lui.
Il meurt à 44 ans, oui. Une vie courte mais intense.
Courte mais intense. Et donc il a cassé beaucoup d'avions, mais il s'est beaucoup cassé lui-même. Ouais. Il souffrait beaucoup, il était plein de bosses, de cassures, de fêlures.
Et démolitions, on appelait ça.
Et donc voilà, une vie intense et je crois qu'il ne la souhaitait pas plus longue. Et il faut dire que la veille ou l'avant-veille, il avait écrit à sa mère, je dis de mémoire, mais ma vieille petite maman, j'espère vous retrouver, je vous aime, on n'a jamais le temps de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, et après il est trop tard, etc. Ouais. Comme s'il avait déjà une préscience de ce qui allait se passer. Ouais. Mais il allait vers sa mort et vers l'au-delà et vers la lumière depuis longtemps.
Il disait que c'était une purification, qu'il allait à la mitraille, qu'il allait à la guerre pour se laver des injures qu'on lui avait faites, les exilés de New York, les amis français, les faux amis de France qui étaient aux États-Unis en exil et qui n'avaient pas apprécié sa prise de position politique puisqu'il n'avait pas pris parti pour De Gaulle et mais pas davantage pour Pétain. Mais il voulait réconcilier les Français, rejoindre encore une fois. Et donc il a été tout à fait agressé par les intellectuels français et il a été très très douloureux. Et il a dit je voudrais me laver de leurs injures dans la mitraille. Mmh. Et donc, il y a cette force, cette phrase absolument puissante hein, qu'il écrit. C'est incroyable d'écrire une chose pareille. Et effectivement, il n'avait pas peur de la mort. Il pensait que ça pouvait être une rédemption.
Oui. Vous êtes en train de nous dire en filigrane, peut-être que finalement, il l'a un peu cherché, ce qui est arrivé autour.
Sûrement. C'était un homme qui allait qui allait vers l'aventure, qui allait toute coudée franche vers quelque chose qui était plus fort et plus grand et plus noble qu'il voulait atteindre. Et tant pis, et quitte à en mourir.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, Jocelyne Sauvard, d'Antoine de Saint-Exupéry? Ses livres, évidemment, on en a parlé, mais est-ce qu'il a un peu marqué notre époque?
Oui, beaucoup. D'abord, il est beaucoup lu, il est encore lu dans les écoles, et puis tous les enfants du monde le lisent, bien évidemment. Mais en même temps, il a autre chose, parce qu'il a aussi cet ouvrage non terminé, Citadelle, qui est si étrange, et qu'on attaque, et puis qu'en même temps, on trouve très beau, parce qu'effectivement, là, c'est le désert tout rouge, et très brûlant, et avec des drôles de choses, et des paroles bibliques, et d'autres paroles qui peuvent avoir un son qui pourrait nous déranger aujourd'hui au temps du politiquement correct, enfin, etc. C'est une œuvre très étrange, monumentale qu'il a laissée là, et là, toutes sortes de mystères dedans. Oui,
c'était son grand œuvre.
Qu'il a écrit tout au long de sa vie, finalement, Citadelle, qu'il n'avait pas terminée. Oui.
C'était comme Camus avec le premier homme. Ouais. Hein. C'était une œuvre qu'il écrivait au fur et à mesure, qui devait être une Bible, et à laquelle il voulait accéder. Et c'est sa compagne, sa maîtresse, c'est-à-dire Nelly de Vogüé, avec laquelle il a eu une longue liaison depuis 1935 jusqu'en 1944, qui s'est chargée, après sa mort, de retravailler le texte avec Simone, sa sœur, de telle sorte qu'on ne sait pas tout à fait si c'était cela que Saint-Exupéry aurait voulu.
Ouais, il reste un doute. Mmh. Est-ce qu'il était, on l'a dit avec Le Petit Prince, un peu visionnaire? Est-ce qu'il a entrevu le monde tel qu'il est devenu depuis?
Oui, il le dit. Je n'ai plus la phrase en mémoire, mais il le dit un peu dans Le Petit Prince. Et il le dit aussi, je crois que c'est peut-être dans Terre des Hommes. Oui, il a vu comment on allait vers le marasme.
Oui, il dit, nous allons vers Babel, vers la cité où les hommes ne se parlent plus, et nous sommes entourés, nous allons devenir des termitières, des termites, et nous vivrons dans une termitière, et nous serons des robots aveugles, et des fourmis aveugles.
Quel livre on conseille à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas tout lu Saint-Exupéry, ou qui voudraient relire? On commence par quoi? On en a cité plusieurs.
Moi, je dis toujours que Terre des Hommes, je l'ai enseigné beaucoup à l'université, mais aussi, je le donne toujours à lire à mes amis, à relire, du moins, parce que Terre des Hommes, c'est un livre qui est doté d'une énergie, d'une puissance incroyable et qui donne vraiment envie de vivre. C'est un goût de vivre extraordinaire.
Merci Alain Vircondelet. Vous êtes l'auteur de Saint-Exupéry, Histoire d'une vie chez Flammarion, ou encore Les Trésors du Petit Prince chez Grund. Vous avez dirigé aussi Renaissance de Saint-Exupéry, paru chez Écriture, ouvrage auquel Jocelyne Sauvard, vous avez contribué. Et puis je cite aussi votre dernier roman qui vient de paraître, Loup est aux anges, un roman qui parle d'amour fou, de musique, de liberté, avec en toile de fond les années 76 et 77, Jocelyne Sauvard. Merci à tous les deux de nous avoir fait rencontrer Antoine de Saint-Exupéry, le temps d'un bivouac.
Merci.
Je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous irons à la découverte des contes du monde avec une spécialiste, Bernadette Bricou. Et dans un instant, on s'envole avec Julia Molcou pour le Mac de l'été. Bonjour Julia.
Salut Daniel.
Vous nous emmenez où?
Ce soir avec le Mac de l'été, on vous emmène au Fnac Live qui commencera demain. Pour ce faire, nous avons invité Albin de la Simone qui nous fera le cadeau de live. Et le Fnac Live, je le rappelle quand même, nous sommes partenaires avec France Inter, mais surtout c'est un festival gratuit. Du coup, je vous invite.
Ah bah bien sûr, mais super. Même si ce serait payant, je vous aurais suivi. Pour qui vous me faites passer, Julia?
C'est moi qui vous invite.
À tout à l'heure.